Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h49, les grands débats ce matin. Elisabeth Lévy, Françoise Degois, vos appels au 0826-300-300. On va revenir sur la déclaration de Martin Hirsch, le patron de la PHP, qui s'interroge sur la gratuité des soins d'hospitalisation pour les non-vaccinés. On a déjà des appels au standard, 0826-300-300, avec Olivier qui nous appelle de Beaucaire. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Bonjour, bonjour.
Bon, Olivier, oui. Allez-y, c'est à vous.
Alors, Martin Hirsch, il m'a énervé.
Ouais.
Il m'a énervé de dire des âneries parce qu'on ne peut pas dire aux gens, moi j'ai travaillé toute ma vie, je suis retraité, je ne suis pas vacciné, j'ai cotisé toute ma vie pour les gens, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas droit aux soins. Ouais. On paye quand on travaille. On paye pour ça.
Bien sûr.
Ouais. Donc il va falloir qu'il m'explique pourquoi je n'ai pas droit.
Ouais. Bah oui, parce que vous avez payé pour tous les gens qui boivent, qui fument, ou alors, qui sont imprudents sur la route, etc.
Enfin, puis,
y a une litanie, en fait, bien sûr, derrière.
Quoi. Et d'ici que Zemmour s'en empare pour dire on paye des gens qui n'ont jamais mis les pieds en France, ils arrivent, on les paye aussi.
Ouais.
Donc voilà.
Ouais,
On peut en rajouter.
Ouais. Donc vous avez été effectivement choqué par ça. Restez avec nous, Olivier. Françoise Degois et Elisabeth Lévy.
Je suis super énervée.
Ça me met en feu, ce
type de propos. Comment Martin Hirsch, quelle perversion. Ils savent très bien que ça ne fonctionnera jamais, qu'on ne fera pas ça. Parce que ça veut dire, c'est exactement ce que vous dites, c'est exactement ce que dit Olivier. À un moment donné, il y a une rupture d'égalité. À un moment donné, on a un système où alors on décide qu'on détruit tout. On décide qu'il n'y a plus les soins gratuits, qu'on casse la sécurité sociale. Parce que moi, qui ai fumé comme un pompier pendant 42 ans, pardonnez-moi, j'ai arrêté là depuis quelques mois.
T'as arrêté ?
Mais je me suis mise moi-même dans la situation, évidemment, de déclencher un cancer du poumon en toute connaissance de cause. Donc, on va m'expliquer, Martin Hirsch va m'expliquer que mon cancer, on ne peut pas le soigner dans 2, 3, 5 ans si jamais il se déclare. Parce que j'ai été imprudente. C'est honteux. Et c'est tordu de la part de Martin Hirsch. Je le dis, c'est tordu de la part de ce patron.
Il n'a pas dit ça. Il a juste dit que pour les fumeurs,
il s'est interrogé,
c'était une addiction qui s'était totalement différente.
Écoutez-moi, Cécile, je n'ai même pas. Il s'est interrogé. Se poser la question à haute voix, c'est faire de la politique.
Elisabeth Lévy.
Alors, je n'ai pas beaucoup plus de sympathie pour Martin Hirsch que Françoise Degois.
Merci.
Pour d'autres raisons d'ailleurs, mais pour d'anciennes déclarations aussi. D'abord, je trouve que cette phrase, se poser la question, c'est pas bien. Moi, je pense qu'on ne doit exclure aucune question. Je pense qu'on ne doit exclure aucune question. Maintenant, si vous voulez, je rappelle que ne pas se vacciner est parfaitement légal. Il n'y a aucune obligation vaccinale. Deuxièmement, effectivement, monsieur...
Olivier, cher Olivier,
a raison. Il a cotisé, si vous voulez, et c'est... effectivement, ce sont des prestations sur cotisation. Vous avez cotisé, vous y avez le droit. Donc, ça, c'est parfaitement exact. En revanche, même si c'est tout à fait annexe par rapport à notre débat, moi, je suis un peu choquée qu'on ne sache jamais combien ça coûte. C'est-à-dire, tu vas à l'hôpital, tu peux avoir des soins qui coûtent 15 000 euros par jour, ou ça dépend des soins, ou des appareils. Moi, j'ai fait des examens dans des appareils qui ressemblent à des fusées.
Vous voudriez avoir, donc...
Je pense d'abord qu'il vaudrait mieux, qu'on avance, pour une partie, évidemment, pas 15 000 euros pour faire ces examens, mais souvent, si vous voulez, quand je vois qu'à la pharmacie, d'abord...
Il y a des gens qui ne pourraient pas avancer.
Beaucoup de gens peuvent avancer. Par exemple, moi, je peux. Donc, si vous voulez, je le fais.
Un scanner ?
Comment ?
Si tu vas faire un
PET scan. Non, je ne parle pas du scanner. Je parle de la pharmacie. Je pense que l'idée, Françoise, l'idée de dire que les soins sont gratuits est une aberration.
Ouais.
Parce que... Et d'ailleurs, les médecins... Oui, Françoise, les soins ne sont pas gratuits. Ils coûtent à la collectivité. Quelqu'un les paye.
Ouais. Bah, c'est nous qui les payons.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que je pense, que l'idée de ne jamais... savoir ce que ça coûte, les gens ont un rapport à ça, comme si ça tombait du ciel et que ça ne coûtait rien. Eh bien, je pense que c'est une erreur.
Ouais.
Je pense qu'on doit savoir combien ça coûte et quand on peut, payer, avancer une partie qui nous est remboursée après.
Moi, je suis d'accord sur la pharmacie, mais les soins, moi, je ne comprends pas ce que vous dites, tout ce que tu dis, Elisabeth. Moi, j'ai été faire une batterie d'examens, j'ai reçu Saint-Antoine ce que je devais payer, mais j'ai reçu combien ça coûtait très précisément.
Pas le toujours scanner, le cas, le machin. Non,
bah, oui, d'accord, mais enfin, moi, je l'ai reçu, je sais combien j'ai mais je sais combien j'ai écouté à la communauté. Honnêtement, poser la question, non, toutes les questions ne peuvent pas être posées avec cette arrière-pensée. On sait très bien pourquoi pourquoi Martin Hirsch pose cette question? Ça va dans le sens de la tribune infâme là, des deux oseaux qui veulent poursuivre en justice les gens qui veulent pas se faire vacciner. Vous savez, cette espèce de climat.
Ah, il y a une tribune il y a trois semaines.
Mmh. Je vous dis, c'est de la politique. On continue sur cette espèce d'ânerie de clivage et de durcissement électoral. Martin Hirsch, tout ça, c'est le giron macroniste. Sur le clivage, il y a les bons, les éclairés, les universalistes, les progressistes qui sont pour le pass vaccinal et qui sont pour emmerder les non-vaccinés. Et puis il y a les obscurantistes, ramenés aux populistes, genre les électeurs de Marine Le Pen qui sont dans la rue contre le pass. Ce manichéisme-là, Père Martin Hirsch le porte, je vous dis pourquoi je n'accepte pas cette question, parce que c'est de la politique. Il est en campagne électorale pour Emmanuel Macron, ça m'insupporte.
Non mais c'est surtout, si j'ajoute là, pour aller en partie dans ton sens, que tout ça est complètement à contre-courant, c'est-à-dire jusqu'à quand ces dingues vont nous enquiquiner avec des mesures absurdes.
Qu'est-ce que...
J'adore le parler vrai.
Je fais une alliance avec Françoise de Goix.
Olivier, vous êtes toujours avec nous?
Oui, bien sûr, j'écoute.
Alors, bon, vous avez écouté, vous avez déclenché une bonne conversation, et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, comme le dit Elisabeth, on devrait tous finalement connaître aussi le coût des soins en réanimation, que ce soit hors Covid ou hors Covid, bien sûr, par exemple, c'est 3 000 euros.
Environ 3 000 euros par jour en réanimation Covid.
Mais après, sur l'ensemble en fait, des soins, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Bon, je ne trouve pas, enfin, moi personnellement, je ne trouve pas d'utilité, hein, parce que je me suis fait opérer plusieurs fois d'une hernie discale, je n'ai jamais su combien ça avait coûté.
Vous avez jamais su?
Non, j'ai jamais su, non. Non, mais par contre, comme ma femme travaille à la Sécurité sociale, je sais le prix de certaines choses. Ouais. J'avais même dénoncé en son temps les fraudes des laboratoires, parce que c'était flagrant. J'ai même écrit à l'époque à Douste Blasi, il ne m'a pas répondu. J'ai écrit à la Sécurité sociale, ils ont changé tout le système, parce qu'il y avait des fraudes par millions.
C'est-à-dire, il y avait une surfacturation.
Je vous explique en 10 secondes.
Ouais.
Ils envoient un double de la facture.
Ouais.
Donc, il y a des recherches qui se font pour voir si ça a été déjà payé.
Ouais.
Donc, si ça n'a pas été payé, ils payent. Et deux mois plus tard, ils envoient l'original et ils se font repayer.
Ah ouais. Oh, ça a changé, ça, je crois. Hein. C'était il y a quelques années, mais il me semble.
C'est paiement multiple.
Ouais,
maintenant, la Sécurité sociale a passé en paiement multiple, c'est-à-dire la somme est enregistrée.
Il
suffit de varier de quelques centimes, mais ça passe quand même.
Bon, dites donc, Olivier, c'était un délit d'initié parce que vous saviez tout, vous, grâce évidemment à votre relation à la Sécurité sociale. C'est pour ça que finalement, c'est pas inutile ce que disait Françoise. Vous le saviez, Elisabeth, vous le saviez évidemment ce que ça coûtait parce que vous aviez en fait votre épouse qui travaillait à la Sécurité sociale, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent façon générale.
Je parle pas seulement des choses graves, c'est-à-dire qu'il y a par exemple beaucoup de gens qui font des examens inutiles, qui font des... Si vous voulez. Aussi des effets pervers de ce sentiment de gratuité, si vous voulez. Encore une fois, je ne veux pas la remettre en cause que les gens... Mais il y a un effet pervers sur les dépenses, tout simplement.
C'est un bon débat. Allez, on devait aborder d'autres questions, évidemment, comme liées immigration et délinquance. On y reviendra peut-être tout à l'heure à 9h15, si vous voulez réagir, dans un instant. Et puis, il y a l'Algérie également. Et dans un instant, nous allons évoquer avec Éric Revel en campagne. Revel en campagne, qui ce matin, Cécile?
Et surtout Emmanuel Macron en campagne et sur tous les fronts. Voilà,
exactement. Voilà,
on en parlera dans quelques instants et puis on vous parlera de l'énergie aux alentours de 9h30. Vous voulez nous appeler justement sur l'énergie? Est-ce que c'est trop cher? Il faut réduire les taxes? Quel est votre avis? 0826-300-300. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Dans un instant, Éric Revel, Macron, Emmanuel Macron en campagne, mais sur tous les fronts.
Oui.
Et c'est avec Éric Revel.
Sud Radio, présidentielle 2022.
Bonjour Éric Revel.
Bonjour Éric.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous.
Alors Emmanuel Macron sur tous les fronts, vous suivez, Éric, la campagne électorale d'un non-candidat, du non-candidat Macron.
Oui, moi c'est pour moi le nouveau concept, Patrick. Ça s'appelle le non-candidat Macron en campagne. Vous avez sans doute noté, un jour il vante son bilan, le lendemain il joue des coups de diplomatique, et puis un autre jour il convoque l'histoire, le tout évidemment au service de sa réélection. Donc on peut dire, oui, Emmanuel Macron sur tous les fronts, ça rime. On va voir ce qui se passera ensuite.
Oui, alors la nouvelle économique de la forte baisse du chômage tombe à pic tout de même.
Alors oui, je vous le dis, hein, un jour il vend son bilan, bah oui, là par exemple sur le bilan économique, sur le chômage, Bercy a annoncé une baisse spectaculaire hein, des demandeurs d'emploi, donc sur un an, hein, mais pas un trimestre, mais sur un an c'est moins 12%, alors le chiffre il peut paraître spectaculaire, mais il est à relativiser en réalité, Patrick, parce que quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que moins 12% certes pour cette année, mais il y avait eu plus 8% l'année dernière à cause du confinement de l'économie, et puis surtout il faut le relativiser parce que quand vous regardez dans le détail, vous apercevez que la formation des demandeurs d'emploi a touché presque trois fois plus de personnes en 2021 qu'en 2020. On est à 320 000 personnes demandeurs d'emploi en formation. Pourquoi est-ce que je lis demandeurs d'emploi à formation ? Ben, parce que quand vous êtes en formation et que vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes sorti des chiffres du chômage. Vous voyez, ça fait moins 320 000 personnes en formation qui sont sorties des chiffres du chômage. Mais bon, Macron, Bruno Le Maire essaie évidemment de surfer sur ce qu'ils appellent des nouvelles économiques spectaculaires. Bon, ils parlent pas du déficit commercial, évidemment, ou de la dette.
Oui, c'est ça. Et puis, autre point, la diplomatie. La France s'invite diplomatiquement dans la crise ukrainienne. Et encore une fois, le non-candidat Macron fait briller, entre guillemets, son armure de chef d'État.
Bah oui, sur le plan de la diplomatie aussi, Macron se pousse du col, je vous dis, il est en campagne, il est sur tous les fronts. La grande réunion sur la crise ukrainienne s'est tenue à Paris, Emmanuel Macron médiatise, lui, à souhait, hein. N'oubliez pas, hein, son coup de téléphone demain à Vladimir Poutine, pour se donner une stature internationale. Bon, on a du mal à imaginer quand même que le président russe va trembler au téléphone alors que il a mis 100 000 de ses soldats qui sont stationnés aux frontières de l'Ukraine, et que Poutine rêve, à tort ou à raison, de reconstituer la grande Russie pour après l'effondrement de l'Union soviétique. Donc si vous voulez, Emmanuel Macron va passer un coup de téléphone à Vladimir Poutine, mais on n'a pas l'impression que c'est Emmanuel Macron qui va faire changer d'avis le président russe.
Et puis sur l'histoire franco-algérienne, Macron ne clarifie pas sa position, mais tente de séduire l'électorat des rapatriés d'Algérie.
Bah oui, ça c'était la dernière chose faite par le non-candidat en campagne, Emmanuel Macron, c'était hier, Elisabeth Lévy le rappelait, sur le front de l'histoire franco-algérienne, il a reçu donc hier à l'Elysée des représentants de rapatriés de la guerre d'Algérie, mais oui, il donne l'impression, pardonnez-moi, mais il donne l'impression d'aller à la pêche au vote, et il clarifie pas du tout sa position, bon on le rappelle tout le temps, mais c'est vrai que ça avait frappé les esprits, on peut pas dire en 2017, quand il était en campagne comme il l'a fait, la colonisation est un crime contre l'humanité. Et puis en 2021, il a stigmatisé les généraux algériens qui serviraient de la guerre d'Algérie comme d'une rente mémorielle. Le sujet, à mon sens, est trop brûlant en France, d'ailleurs comme en Algérie, pour s'amuser à jouer du « en même temps » qui finalement blesse toutes les mémoires. Alors Macron en campagne électorale, sans être candidat, pas certain que les Français apprécient encore longtemps le jeu présidentiel, d'autant que, vous rappelez, deux tiers des Français s'estiment perdant après le quinquennat d'Emmanuel Macron, selon l'enquête IFOP fiduciale.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron doit véritablement quand même officialiser sa candidature ? Parce que si on réécoute Stanislas Guérini, qui était notre invité tout à l'heure, délégué général d'En Marche, il disait très clairement « tous les candidats ne proposent pas une vision de la France, ce sont des petites propositions, ou alors ils sont sur des petites phrases », alors que Emmanuel Macron, lui, propose une vision pour 2030. Dans ces conditions, c'est très clairement, quand il est sur le terrain et qu'il propose cette vision, qu'il est en campagne, quoi. Donc, il faudrait le comptabiliser ou pas dans les temps justement de parler.
Elisabeth Lévy, ça commence à devenir, si vous voulez, en termes de fair play du match, ça commence à devenir, du foutage de gueule. Eric a parfaitement raison. Et tous les Français le savent, si vous voulez. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus une tentative de faire semblant du genre « je suis le président aux affaires, je gérerai jusqu'à mon dernier mandat ». Aujourd'hui, il utilise les moyens de sa présidence pour faire campagne. C'est pas... Je ne dis pas qu'il y en a... Tous les candidats, tous les anciens présidents ont toujours un tout petit peu tiré sur la corde, mais là, je trouve... Que là, ça devient vraiment très gênant.
Si on regarde dans l'histoire,
Éric Revel... François Mitterrand s'est déclaré très tard.
Éric Revel, tous l'ont plus ou moins fait jusqu'à présent, ou pas, Éric ?
À ce point, je pense.
Oui, bien sûr. Elisabeth allait le dire, mais François Mitterrand, en 88, il s'est déclaré un mois avant, je crois, l'élection présidentielle. Donc bon...
Nicolas Sarkozy, pénible. Nicolas Sarkozy, assez tard, en 2012, à tel point d'ailleurs qu'après, il l'a regretté en disant qu'il lui avait manqué 15 jours face à François Hollande. Comme quoi, finalement, y a un petit risque aussi.
Bah oui. Oui, peut-être que Emmanuel Macron devrait écouter les paroles prophétiques de Nicolas Sarkozy, à qui il a manqué 15 jours pour, dit-il, l'ancien chef de l'État, être réélu. Non, mais ce qui est très agaçant, Patrick, pardonnez-moi, c'est que vous aviez ce matin le patron du parti présidentiel qui vous explique que tout est en place. Bruno Bonnel, par exemple, le député du Rhône, il est chargé du programme jusqu'en France 2030. Donc tout est en place, tout le monde sait qu'il est candidat. Il avance ses troupes, il avance ses pions, il avance ses fantassins, il avance ses tireurs d'arbalète. Et puis, il faut attendre que Jupiter daigne nous dire qu'il est candidat. Moi, je pense qu'on est dans un malaise démocratique qui prend de l'ampleur.
Oui, et en plus, moi, je me dis quand même qu'Emmanuel Macron devrait se méfier. Je n'ai aucune espèce de lumière précise. Mais quelqu'un d'autre qui est quasiment élu un an avant, hein, parce que c'était un peu ça l'idée, c'était il va être élu dans un fauteuil, c'est déjà fait. Eh bien, on sait que les Français nous réservent quand même souvent des surprises. Et déjà, il y en a eu dans cette élection. Et peut-être qu'on aura un deuxième tour complètement qu'on n'a pas du tout imaginé. Donc, je trouve qu'ils sont trop sûrs d'eux.
Oui. Bon, allez, dans un instant, vous voulez réagir. 0826-300-300. Je sais qu'on a eu quelques petits soucis, en fait, au standard, mais c'est rétabli, là, ça y est. Vous pouvez appeler. que ce soit sur Emmanuel Macron, il va quand même assez loin, le président des Républicains, le patron des Républicains, Christian Jacob. Détournement de fond. Il dit ça frôle le détournement de fond d'Emmanuel Macron et qui fait sa campagne sur le dos des contribuables. Alors, en tout cas, les frais engagés par l'État dans le cadre de la présidence de la République. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, Cécile vous reposera dans un instant nos deux questions du jour. Et vous continuez de nous appeler 0826-300-300.
A tout de suite, 9h12.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h15, la suite de nos grands débats. Et vous le savez qu'en ce moment, on en parle depuis pas mal de temps, on va pouvoir peut-être éventuellement changer de nom. En tout cas, il y a eu un premier vote qui a été favorable aujourd'hui, hier à l'Assemblée nationale. Donc ça va repartir. Est-ce que vous êtes favorable de pouvoir changer de nom, de prendre le nom de votre père, de votre mère? En tout cas, vous nous appelez 0826-300-300. Mais qu'en pense Éric Revel et qu'en pense Elisabeth Lévy?
Oui, sur ce projet, on a entendu Patrick Vignal qui était avec nous, pour les auditeurs qui n'étaient pas là tout à l'heure. À 8h moins les quarts, dans Sud Radio vous explique, parce qu'il est à l'origine de cette proposition de loi de pouvoir changer de nom à la majorité. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence peut-être par Éric et ensuite...
Commençons par Éric. Honneur aux hommes.
Je vais être un peu rétrograde, je vais dire. Moi
aussi.
J'ai entendu Monsieur Vignal nous expliquer que c'était la loi de l'amour.
Oui.
Bon, très bien, la loi de l'amour. Qui peut s'opposer à l'amour et encore plus à la loi? La force reste à la loi. Mais franchement... Bon, est-ce qu'on a que ça comme problème à traiter? On a déjà la possibilité, me semble-t-il, pour une femme d'accoler le nom, de garder son nom et d'accoler le nom de son mari. Bon, alors maintenant, je vais vous dire, ça va jeter une sorte de confusion. Il y a quelques personnes qui vont évidemment se dire, c'est une magnifique chose que je puisse changer mon nom de famille, mais... Pour la grande majorité des gens, pardonnez-moi, c'est un signe de quoi? C'est un signe de progressisme moral, de pouvoir changer de nom. Moi, je pense que c'est un signe de confusion, et c'est même peut-être, vous voyez, c'est une petite chose. Alors, c'est une très grande chose pour certaines femmes, très bien, je peux l'admettre, mais ça fait partie de ces petits cailloux qui délient progressivement, si vous voulez, la solidité de ce qui a fait la société française pendant des années. On peut déjà avoir les deux noms. Pourquoi tout d'un coup faut-il
Il y a 300 000 foyers aujourd'hui monoparentaux, donc des enfants qui n'ont ni leur père ni leur maman, l'un ou l'autre, et je trouve que c'est sympa de se dire qu'on a le choix. Moi, quand j'ai fait le choix, quand mon père à l'âge de 13 ans m'a dit tu ne porteras plus mon nom, et que j'ai fait le choix et j'ai été retoquée par le Conseil d'État, j'ai quand même pris le nom de maman, mais je ne me voyais pas porter...
Ah mais c'était illégal alors.
C'était totalement illégal, ouais. Donc même à l'école, l'école, j'avais le nom de maman, c'était totalement illégal.
Mais ça a été légalisé et autorisé ensuite.
C'est devenu forcément avec la notoriété, c'est ce nom qui est devenu là et c'est sur mes papiers d'identité aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important quand vous avez un passé compliqué avec un parent, c'est très important de vous dire, j'ai envie de porter le nom du parent qui n'est pas natif.
Cher Cécile, mais
c'est tout.
D'abord, pardonnez-moi, d'abord la question de l'envie
c'est pas une
ne
question
peut pas
d'être progressiste.
Pardonnez-moi, la question de l'envie ne peut pas être le seul déterminant d'une affaire aussi sérieuse. Deuxièmement, moi, la discussion n'est pas entre ceux qui refusent les changements de nom et ceux qui les acceptent. La question est de savoir si on doit passer devant un juge ou si chacun à la carte va choisir son nom comme ça sur un coin de table. Moi, je suis comme Eric, je suis rétrograde, je vais vous dire pourquoi. Et encore une fois, dans votre cas, ça ne me choque nullement, si vous voulez, que vous passiez devant un juge, qui est une procédure simplifiée comme on sait en faire, et que ce soit acté. Mais c'est pas ça qui est en jeu, parce que ça existe déjà, si vous voulez.
C'est compliqué.
C'est très compliqué.
C'est pour ça que je dis une procédure simplifiée. Ce qui me choque, c'est cette espèce d'idée que chacun va choisir selon son envie. Eh bien non, si vous voulez, la filiation ne relève pas simplement des envies des gens. C'est ce que les psychanalystes appellent l'ordre symbolique. Je rappelle simplement à Monsieur Vignal, s'il nous écoute, d'abord, moi je ne dis jamais les papas et les mamans, j'aimerais qu'on arrête de dire papa et maman dans l'espace public. Papa et maman sont des mots de la vie privée. Mais bon, passons. Oui, mais je suis désolée, il y a une espèce de distance qu'on doit tenir, et la loi de l'amour, évidemment, excusez-moi, le Parlement, il vote des lois. Si vous voulez, laissez-nous l'amour, laissez-nous gérer l'amour dans notre vie privée, ce sera beaucoup mieux. Pourquoi est-ce qu'on a donné le nom du père? Je ne dis pas que ça doit être absolu, encore une fois, pour la...
Moi, je suis pas contre ça.
Pourquoi est-ce qu'on a donné le nom du père? Parce qu'on n'est pas sûr du père. Et évidemment, alors bien maintenant, vous me direz qu'il y a des examens, mais c'était pour pallier l'incertitude, si vous voulez, sur la paternité. C'est le père qui transmet le nom. Alors, c'était aussi pour la transmission des biens. Bon, je rentre pas dans les détails. Je ne dis pas du tout. Effectivement, Eric l'a rappelé, une femme peut donner aussi son nom. Il peut y avoir un accord. Je dis simplement que ça ne peut pas relever simplement des envies, du libre-choix. Et, en gros, ça me fait plaisir. Et j'entends bien qu'il y a des cas absolument terribles, effectivement. Si vous voulez, Monsieur Vignal a cité tout à l'heure, je crois, le cas de gens qui auraient été violés, par exemple, par un de leurs parents, qui est souvent, pas toujours, mais souvent le père.
Ou dont le parent a une attitude délétère.
Ou le dans votre cas, vous dites que c'est votre père qui ne voulait pas que vous portiez votre nom. Et je suis, effectivement, pour que dans ces cas, un juge puisse dire très vite et sans enquiquiner les gens, voilà, très bien, avec des raisons. Voilà. Mais ce truc à la carte, si vous voulez, En fait, c'est l'idée qu'on ne fait plus société, que chacun va prendre ses règles de filiation, et que donc on est concerné par les impôts des autres, mais que finalement, pour les noms, la filiation, chacun fait ce qu'il veut. Ça me choque beaucoup, en fait.
Et puis si le modernisme, le progressisme, c'est de mettre par terre la société patriarcale telle qu'on l'a connue, ses difficultés et ses inconvénients, je dis attention. Parce que pour moi, si vous voulez, ça participe quand même toujours de la même chose. Alors vous allez dire, il fait une fixette, mais ça participe quand même d'une certaine déconstruction, vous voyez.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'on dit, bon, la société patriarcale, elle a été violente, elle a été sexiste, elle nous a amené dans le mur, oui, enfin, elle a tenu la société française depuis des décennies. Donc il faudrait l'abattre. Mais si on l'abat avec cette petite chose, vous voyez, qui est la remise en cause,
alors c'est pas grand-chose,
et on peut le comprendre sur des cas individuels. Et Elisabeth a raison, un juge qui prendrait rapidement une décision, ça permettrait de trancher les choses. Je dis juste attention, parce que c'est des petites choses comme ça, vous voyez. On peut avoir un pilier très solide devant soi qui repose sur quatre petites allumettes, et si vous retirez une allumette, deux allumettes, le pilier finit par tomber. Attention, méfiance, on met le doigt dans un engrenage.
A évolué quand même.
Oui, mais c'est pas à la carte.
Évoluer les choses.
Si vous voulez, la famille, c'est quand même malgré tout une structure. C'est l'idée que chacun va choisir, si vous voulez, que ça relève simplement de l'individu, du choix individuel, du plaisir individuel,
Pourquoi pas, après tout ? De choisir, son nom pour vivre,
c'est une question d'anthropologie.
En fait.
On ne peut pas avoir... Vous voyez bien qu'on a déjà des problèmes avec des différences d'anthropologie entre, par exemple, des gens qui sont arrivés hier...
Parlez bien dans le micro.
Pardon, avec des gens... C'est parce que je me tourne vers vous, Patrick. Patrick. Ouais. C'est parce, avec des gens qui seraient arrivés hier de pays complètement éloignés de nous sur le plan culturel, qui n'ont pas la même anthropologie, qui n'ont pas les mêmes structures familiales, vous voyez bien que c'est très compliqué. Donc l'anthropologie, c'est quand même le soubassement symbolique de la société. Il faut, si vous voulez, qu'il y ait des points communs. Encore une fois, je suis comme Eric, finalement, Patrick Vignal disait... C'est Patrick ?
Oui, Patrick Vignal.
Il disait tout à l'heure, il parlait de vieux croûtons et de vieux crabes, peut-être. Ouais.
Non, mais vous voyez bien, pardon, je vous coupe, Elisabeth, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a la possibilité de donner les deux noms sur, à des enfants et que vous avez la possibilité de ne pas utiliser les deux. C'est-à-dire que
mais je vous dis juste que ça ne peut pas relever d'un... ça peut pas relever d'un choix comme ça. Ça doit être, il faut que ce soit acté par une institution. Si vous voulez, de la même façon, vous ne pouvez pas prendre un enfant et dire c'est le mien. Donc, l'adoption doit être... l'adoption doit être actée par une institution.
Donc en fait, il faut qu'il y ait des critères et des garde-fous.
Et de l'institutionnalisation. Voilà.
Juste, je vais essayer de faire rire sur un sujet qui n'est pas du tout, parce que on a bien entendu le cas de Cécile et qui est évidemment
très éloquent. Et puis il y a beaucoup d'autres cas, bien sûr.
C'est vrai qu'un juge tranche rapidement, mais pardon. Ouais. Imaginez, là, je vais pousser un peu le bouchon un peu plus loin pour montrer à Patrick Vignal tout l'amour que j'ai en moi. Imaginez que vous ayez dans une famille une mère absolument exécrable, dont l'enfant ne veut pas porter le nom, et un père violeur, n'est-ce pas ? Alors, il faudrait ouvrir la possibilité dans une loi de trouver un troisième nom pour éviter de porter celui de la mère ou celui du père.
Vous prenez toutes les lettres.
Vous voyez bien qu'on ouvre la porte à des choses extrêmement compliquées.
Oui,
sans parler, pardonnez-moi,
de
je pensais
grand-mère.
À ça.
De
sans parler des questions d'héritage. Ouais. Sans parler des questions d'héritage. Ouais. Parce que quand vous avez changé le nom, que vous n'avez plus le nom du père, bon courage aussi pour retrouver qui est la fille de qui, avec quel nom.
Une phrase sur le patriarcat, si Eric me permet.
Oui. Pardon.
Eric, juste parce que vous dites nous avons connu le patriarcat, alors j'ai pas encore lu l'intégralité du livre d'Emmanuel Todd, mais ce qu'il dit dans les différentes interviews qu'il a accordées, c'est que il y avait ce titre, je crois, dans celle de Jenny Bastier, le patriarcat n'a jamais existé, en gros. Le patriarcat, en gros, il disait ça. Alors, peut-être qu'il pousse le bouchon un peu loin, il faut que je le lise. Mais il a quand même étudié les structures familiales de façon
bien
assez
sûr. Bien sûr. D'ailleurs, on l'attend, nous devrions le recevoir sur Sud Radio. Merci à vous. Alors, le standard est rétabli, on a eu des appels, mais maintenant on est un petit peu pris, évidemment, par le temps. Vous pouvez continuer d'appeler pour notre prochain sujet, avec Loïc Le Floch-Prigent qui sera avec nous, sur notre sujet qui concerne alors tout
l'énergie,
le monde.
En général, l'énergie, et puis l'essence, les carburants, en tout cas tout ce qui fait fonctionner,
le gaz.
Qui devrait être, pour certains, un bien commun. On va en parler avec deux invités ce matin, Loïc Le Floch-Prigent, qui est ingénieur et ancien dirigeant, vous savez, d'EDF dans les années 90. Et un autre invité ce matin, Fabrice Coudour, qui est secrétaire fédéral de la FNME-CGT en Savoie, hydraulicien au groupe EDF. Et vous savez qu'il y a
des
mouvements de grève en ce moment chez EDF. En tout cas, appelez-nous 0826 300 300 pour nous donner votre avis. À tout de suite.